avec Leïla Kamouboudadine.
Bonjour à tous.
Nora Hamzaoui. Daniel Morin.
Oh, bravo Daniel.
Monsieur Tom Villa.
Bonjour.
Richard Lambert qui est au clavier.
Bonjour.
Et notre invité, Laurent Dor. Tout va bien, Laurent?
Oui, merci, bonjour.
Soyez le bien.
Soyez je suis très content de rencontrer Leïla Kadour.
C'est vrai?
Oui, oui, je suis très content. Je la regarde depuis la rentrée sur France 2.
Vous avez bien
raison. Ça m'a fait zapper.
Ah, oh, c'est gentil, Laurent.
Donc vous zappez sur une autre chaîne ou...
je me suis fixé sur France 2.
Alors, je dois reconnaître une chose, c'est que quand il est rentré dans ce studio, il a commencé en très poliment en disant bonjour à tout le monde. Et il est en effet resté scotché, tel un chien de chasse.
Bon, elle était nue aussi, ça joue. Hein.
Il est resté scotché, comme ça, il a...
Le seul danger, c'est qu'elle nous fait passer les pires nouvelles. Quoi. On a l'impression que tout va bien quand même.
Mais ça vous a fait plaisir de la rencontrer.
Oui,
en
oui, je suis très, voilà, je suis très, 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 très voilà. Choqué. J'ai été surpris. Je m'y attendais pas. Stupéfait et ravi parce que c'est vrai que je vous apprécie beaucoup. Je vous regarde. Voilà, c'est tout. Je vous regarde.
Bon, n'en faites pas trop.
Je vous écoute.
Mardi en 8. Mais on la regarde tous.
Le journal de Laurent Dot sur France 2 est remarquable aussi.
Mardi en 8, c'est-à-dire nous serons le 7 février. Vous démarrez une nouvelle pièce. J'espère que vous avez compris cette fois, Tom Villa, pourquoi nous avons invité Laurent Dutch.
Ben si, parce que Laurent Dutch est acteur en fait, et avec tous ses hobbies, on l'aurait presque oublié. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous perdez pas la main avec l'écriture, il y a un nouveau livre en préparation, c'est Turconome, c'est l'histoire des kebabs au fil des lignes de RER, ça va être formidable. Et non, je pense que ça doit être un enfer pour vous de prendre le métro, parce qu'à cause du bouquin, voilà, il y a toujours un gars qui doit vous demander ce qu'il y a à faire dans le quartier, s'il n'y a pas une trappe secrète entre deux bancs pour accéder aux douves asséchées de la Bastille, ça doit être une galère. Et bref, je pense qu'à un moment, vous avez dû hésiter à aller habiter à Marne-la-Vallée. En termes de patrimoine, c'est beaucoup plus peinard. Alors Laurent, on est très heureux de vous recevoir, et pour une pièce de théâtre en plus. D'ailleurs, je refais une petite parenthèse. Laurent, c'est le seul royaliste français qui porte le nom d'un autre pays. Il faut le faire quand même. Tu vois, c'est pas hyper cohérent. Tu vois,
ah oui.
Alors que.
François Hollande.
Stéphane Bern, il a quand même la fondation de la Suisse avec Bern. Donc le Bern, l'ours suisse, qui est un peu le gros mythe fondateur.
Ça lui va bien comme description, l'ours suisse.
L'ours suisse. Bern, c'est ça. C'est un ours.
Non, mais c'est vrai, c'est pas des fois les noms de famille. Alors que Serge Dassault, qui fabrique des armes d'assaut, là, c'est cohérent. Bref, parenthèse refermée. Donc revenons au théâtre aujourd'hui. Donc vous venez nous parler de la pièce Bankable. Voilà, c'est un mot un peu horrible qui trie les acteurs en deux catégories, ceux qui pèsent dans le game et puis les autres
ceux qui pèsent dans le game.
Bah oui, vous êtes pas de la street
en un seul mot.
On est dans l'anglicisme, hein, je l'ai cherché avec ce titre.
Non, pour ceux qui connaissent pas ce mot, un acteur ou une actrice bankable, c'est un ou une comédienne avec lequel tu peux monter un film juste sur un nom, parce qu'il y a des gens qui se disent qu'avec un tel ou un tel, il y a plus de chances que le public se déplace voir un film. Bien souvent de merde. Et souvent, cette technique échoue. Petit exemple de ce qui est bankable. Alors, on va pas donner de nom dans le cinéma parce que sinon, il n'y aura plus aucun acteur qui va venir jusqu'à fin juin. Mais exemple, Nagui est bankable. Ouais. En revanche, Patrick Sabatier, depuis qu'on est passé à l'euro, moins. Voilà. Autre exemple.
Touche pas aux amis de Nagui.
Autre exemple, Richard Lornac, dans le milieu du piano, est bankable. En revanche, Richard Lornac, dans le milieu de la mode, moins. Voilà. Donc, du coup, le pitch de bankable, je lis le résumé officiel. Une vedette de cinéma aux abords de la cinquantaine, éternel enfant gâté, mauvais mari, mais relativement bon père. Donc ça veut dire, il baise à droite à gauche, mais il est présent le dimanche matin pour emmener le gamin au foot. Cet acteur ne se rend pas compte qu'il n'est plus un jeune premier. Donc, se jouant au casting de la pièce, il y a le résumé toujours. Un scénariste renommé, hypochondriaque et survolté. Ça veut dire encore un taré qui pète plus haut que son cul et qui tape de la coke. Et puis un producteur impitoyable, dur à cuire, mais pourtant passionné de bouddhisme. Donc ça veut dire encore un taré qui pète plus haut que son cul, mais qui fume du shit. Bref, pour que pour le public, ça sera une comédie loufoque.
Faut déconner.
Pour les professionnels, ça sera un peu en dessous de la réalité. Ouais, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez le cinoche, les bankabilités et revoir Laurent Dutch sur scène, eh bien, Bankable est fait pour vous.
Merci, Dombia. C'est à partir du 7 février.
Original. Nagui sur France Inter.
Et ça se passe au théâtre Montparnasse, et pour être encore plus précis sur la définition du bankable, et il y en a un qui a assumé d'être ou de ne pas être du moins bankable, et c'était ici même à ce micro.
Il n'y a plus un acteur bankable véritablement en France, ça j'en suis sûr. Il y a des bons films, bon il y a Omar Sy, voilà, mettons qu'il y a Omar Sy, mais bon jusqu'à son premier échec, puis le jour où il fera un premier échec, ben il y aura plus d'acteur bankable, et ça arrive.
C'était François Berléand. Bon, on peut comprendre que lui ne soit pas bankable, étant donné
il l'a jamais été.
Ouais,
jamais
été, si il l'a été.
Non, jamais,
il
l'a
été
une
petite année à l'époque de Narco et Mon Idole.
Mon idole,
il a été bankable.
La différence entre vous et nous, c'est que nous on était en train de déconner, Laurent, et que vous avez été très
on m'a dit il faut que tu sois sérieux, t'es sur Inter. T'arrêtes de dire des conneries maintenant.
Régulièrement dans cette émission, la tradition veut que nous disions des crasses sur François Berléand parce qu'il les mérite. Parce qu'on l'aime.
Je ne valide pas du tout. Bah, j'ai travaillé avec lui, il est formidable.
Mais évidemment.
En plus, il est supporter du PSG. Il en faut.
D'accord. C'est pour vous dire, vous jugez un comédien sur le club qui supporte.
Ça fait pas de mal des supporters du PSG. Ça
il est en tournée avec Momo et on l'embrasse au mieux de toutes les horreurs. Et moi, je suis ravi de la carrière qu'il mène, François Balland, surtout avec sa manière de jouer. C'est quelque chose.
Et, physique.
Et au théâtre, il est extrêmement bankable parce que bankable, c'est pour tout. Aujourd'hui, c'est valable dans tous les domaines. Vous savez, dans une société où on est dans le tout de suite, où il faut qu'il y ait une garantie immédiate. Dans le cinéma, on dit qu'on est bankable et c'est de là que c'est un peu né parce que le film est joué le mercredi de la sortie à 14h02. Mmh. Ouais. Au bout de deux minutes, on sait si le film est mort ou si le film va réussir. Le bouche à oreille n'a plus sa place dans le cinéma, donc on doit s'assurer. C'est le principe de précaution qui est valable dans toutes les strates de la société.
Il faut préciser une chose sur ce que vous dites sur le cinéma, puisque c'est le sujet de cette pièce de théâtre. C'est justement un film, une coproduction franco-américaine qui se monte, voire uniquement américaine par moment. On a le sentiment, c'est que vous avez totalement raison. Vous n'exagérez pas en disant à 14h02, les dés sont jetés, tout est foutu. Les producteurs de cinéma ont des espèces de coefficients et en fonction de ce qu'ils ont fait dans telle ou telle salle parisienne et dans telle ou telle salle en province, quand ils ont les retours du nombre d'entrées, ils arrivent à avoir un coefficient qui démultiplie le résultat et ils sont capables de vous dire, voilà, l'histoire de ce film s'arrêtera dans une, deux, voire trois ou quatre semaines et au total, on aura fait tant. Ils peuvent se tromper.
Il y a toujours des surprises.
Il y a toujours de belles histoires.
Il y a des exceptions et des films comme ça qui fonctionnent vraiment
par la bouche à oreille. Par moment, l'actualité peut vous rattraper. Moi, je sais que j'avais fait un film qui devait aller très très haut, qui était 3-0, le film de Fabien Antoniente. On est sorti juste avant les élections de 2012. Le Pen est passé au deuxième tour et là tout s'est arrêté en France pendant une semaine. Ouais, en 2002 pardon. Ouais. Mm-hmm. Et tout s'est arrêté.
Enfin,
et
ce qui a fait que c'était pas non plus le film du siècle.
Ah, j'étais super. Ah, j'étais super.
Il y a pas Berléand.
C'est un film super. Le PSG gagnait la Champions League. Quoi. On était dans du rêve absolu.
Oui, c'est ça. Surtout à cette époque.
Ah,
voilà. Ouais,
c'est de la fiction.
Voilà, c'est ça. Total fiction.
Ah, c'est de la comédie. C'était mieux que le film du TF1 20h50. Le PSG gagnait en finale de Champions League.
Cette comédie de Philippe Madral, mise en scène par Daniel Collat au théâtre Montparnasse. Où vous n'êtes pas le comédien bankable dans la pièce, vous êtes le scénariste,
oui.
Pierre. Il y a le Bruno, en l'occurrence, la star qui est un peu le boulard, c'est, Vincent.
Bombe. C'est une bombe. C'est un acteur extraordinaire.
Winter
c'est un des plus grands acteurs français actuels. Sincèrement, allez le voir. Ne serait-ce que pour découvrir Vincent Winterhalter, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est un acteur du subventionné, donc il est toujours par Mons et par Vaux. Il tourne des pièces qui durent 9 heures. Lui, il est dans la performance. Il est en mission pour le Seigneur, le mec. Il est persuadé que pour jouer son métier, il faut être à poil sous la pluie pendant 40 ans. C'est hallucinant. Il a une espèce de. Il porte quelque chose et sur scène, il est détonnant et il est capable de tout. En plus, il a épousé Marie Bunel. Vous savez, cette actrice qui est sublime. Qui est très très belle.
Vous avez qu'à balancer tout ça.
Elle a flashé sur lui. C'est pour vous dire comme il est superbe. Non, il est génial.
Ça, il a 40 ans à poil, elle avait le temps de juger.
Jérôme Anger est également au casting de cette pièce avec Manoël Gaillard et Caroline
Maillard. Voilà, que des noms en art. C'est comme pour la présidentielle, il n'y a que des noms en on. Et ben nous, il n'y a que des noms en art, les filles. Non, mais c'est vrai, c'est marrant. Macron, Hamon, Fillon, Méchanlon. Le Pen, Dupont-Aignan.
Vous avez pris un truc, Laurent ?
Il est toujours comme ça.
Je sais. Je voudrais juste finir par.
Que des noms, on se croirait dans le Luberon, quoi. On est entre Tartarin de Tarascon, entre Cavaillon et entre Cucuron. Voilà, vous allez le choix entre Méchanlon, entre Hamon, entre Macron, entre Fillon, Dupont-Aignan et Le Pen qui se distingue. Oh, qu'est-ce qu'il a été dire ? Il y en a quand même une qui. Non, mais elle se distingue pas tant de ça, puisqu'elle aussi, ça se termine par un N. Et le N. Et j'ai cherché des trucs à dire sur le N. Regardez dans un dictionnaire.
Le N ou la N ?
Je sais pas justement si c'est lié ou quoi. Le dernier N qui a été président de la République, je crois que c'était Lebrun. C'était pendant la guerre, ça a pas porté chance. Mais en N, il y a que des mots bizarres, un peu négatif. Trouvez un mot positif sur qui commence par N. Nagui. J'ai regardé. À part neuf, novateur,
Nagui,
et nouveau.
Nagui.
C'est positif.
Très mal le prendre, ce que tu fais là.
Qui veut dire Nog, qui veut dire grand en hongrois d'ailleurs. Ouais,
c'est vrai en plus.
Mais sinon, c'est que des noms, des N un peu bizarres. Nul, Nien, Nigo, Nain, Narcoleptique.
Vous voulez pas qu'on parle de votre pièce en fait.
Nyctalope, hein. Si, allons-y, parlons-en.
Très bien. Donc, c'est l'histoire d'un comédien, Bruno, qui est quel boulard et qui réussit sa vie professionnelle, pas trop sa vie privée.
Oui.
Il a deux enfants de deux mères différentes qui se cassent. D'ailleurs.
Oui, il dégomme un peu dans tous les coins, quoi, comme tous les acteurs qui sont persuadés qui sont des vedettes, ils finissent par le croire et puis ils n'arrivent plus à se stabiliser.
Là, vous avez des noms. Alors, ça. Et donc, vous êtes à la fois scénariste et producteur, vous et Jérôme Anger, et vous avez réussi à monter une copro américaine avec une grande star, une comédienne américaine qui va participer au film, aux côtés de ce Vincent Winterhalter. Alors, je ne sais pas jusqu'où on peut raconter l'histoire, si ce n'est que les débuts de la coproduction se passe mal parce qu'il est un peu remis en,
oui, on
en
peut,
cause.
Vous pouvez tout de suite le dire qu'en fait, ils ne veulent plus de lui. Les Américains décident de se passer de cet acteur qu'ils considèrent comme trop vieux, comme passé pour eux apparaître en tant.
Non, mais Has-been aussi parce qu'il s'est pointé avec une casquette Chicago Bulls.
Oui,
de travers,
il y a tout de suite des effets désagréables de le voir arriver avec une casquette de basket qui n'est plus à la mode d'ailleurs. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils le considèrent comme pas suffisamment.
Ringard,
il sert à rien, il coûte trop cher pour ce qu'il va rapporter, donc il le dégage. Donc ça va être à nous, et c'est ça qui est drôle dans la pièce, c'est que le public le sait très vite, mais ça va être à nous de lui annoncer que il est sorti du ring, quoi. Il est chaos, quoi.
Les fourches codines par lesquelles vous avez passé pour lui faire comprendre, quoi.
Eh ben, on va justement mettre une heure et demie à lui dire. On va même pas oser, quoi. Ça va être à chaque fois des reculades, et c'est ça qui va être des prétextes à comédie, puisqu'à chaque fois on va se cacher derrière notre petit doigt.
Et c'est un peu à cause de vous aussi, de votre personnage en tout cas, puisque vous avez réécrit le scénario et vous avez rajeuni le personnage, et ça donne une raison supplémentaire au producteur américain.
J'adore votre question. Je dois réfléchir un petit peu, je suis flatté, je vais devoir prendre 3 secondes pour répondre. C'est Leïla Kadour qui m'interviewe. Oui, Leïla, oui, c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que je peux
votre
dire?
Votre personnage
je suis
est
totalement amoureux.
Oui, parce qu'en plus, moi, on fait des changements et du coup, je vais devenir celui par qui le mal arrive, puisque le prétexte va être tu n'as plus l'âge du rôle. Et qui est-ce qui a réécrit le rôle plus jeune? C'est moi, donc je vais devenir le coupable désigné. Donc c'est affreux parce que je le connais depuis 20 ans, on est censé être amis.
Et c'est pas inintéressant puisque votre personnage est un scénariste qui s'interroge sur sa pratique, qui aimerait écrire des romans, du théâtre, et que son ami Bruno, meilleur ami, qui va finir un peu par dégommer quelque part, n'est même pas sensible à son savoir-faire, à son talent.
Ouais, il le considère que comme un faiseur. Lui-même se considère comme un faiseur. Il passe à côté de sa vie. C'est l'éternelle question un peu entre le fait de réussir dans la vie et réussir sa vie. Voilà. À quoi ça rime d'être tout en haut quand on passe à côté de choses peut-être plus essentielles, de construire une famille, de construire un environnement, d'être fidèle en amitié, d'être loyal, de tenir ses engagements, de tenir ses résolutions, de tout sacrifier au nom des sirènes de la gloire.
Alors moi, j'ai plus vu en filigrane les messages sur l'amitié que sur les valeurs de la vie dans cette comédie.
L'amitié
et la franchise.
Pour moi, mon personnage, c'est l'amitié et la franchise. Ouais. Bruno, c'est plus aussi les valeurs de la vie, puisque ce qui va le réveiller, c'est ses enfants. Mmh. C'est la conscience de sa paternité. Tout d'un coup, il va s'apercevoir que ses enfants ne trichent pas, et que lui considère qu'il triche depuis trop longtemps, et il va un peu faire sa catharsis sur scène, et il va se révéler à lui-même.
Bankable, c'est au théâtre du Montparnasse.
Et oui, de bankable à bancal, il n'y a qu'une lettre. Et c'est bancal d'être bankable.
À partir de mardi prochain, le texte de la pièce est mieux écrit que la vanne que vient de faire Laurent, je vous rassure.
Arrête, c'est moi qui ai trouvé le titre juste pour cette vanne. Je te jure, c'est vrai.
C'est toi qui as trouvé le titre.
Ouais, j'ai demandé à changer le titre.
C'était quoi avant?
C'était quelque chose d'un peu plus, je trouve, laborieux. C'était genre vacances de star. Ça faisait un peu daté, je trouve. Et
Bankable,
voilà.
Bankable,
ça m'y est. Bankable. Ouais, ça parle tout de suite.
Non, puis surtout, ça raconte la pièce. Le côté instable et bancal de ce métier.
À partir du mardi 7, donc, au théâtre du Montparnasse. Lorsqu'on a annoncé la venue de Laurent Deutsch, vos oreilles ont sifflé. Et la cadre d'Alice qui ne m'a pas arrangé les rapports avec Laurent.
Immédiatement, Laurent, quand j'ai pensé à vous, je vous revois aux côtés de Jamel Debbouze dans Le ciel, les oiseaux et ta mère.
Dès que le mot est en vogue, vous avez des gens qui commencent à gagner de l'argent avec. Vous avez par exemple des bars qui se disent existentialistes. Qu'est-ce qui peut faire l'existentialisme d'un bar? La décoration. Vous avez même un couturier existentialiste.
On reconnaît pas Jamel. Hein.
Non. C'est...
Alors mais c'était mon deuxième son, mais c'est pas grave, on va y venir. C'est j'ai pensé à Sartre que vous avez incarné à l'écran. Voilà, on passe de Jamel Debbouze à Sartre.
Heureusement qu'on est bon direct, on changera tout
ouais,
ça.
Ouais, c'est vrai. On va inverser.
Sinon, ce sera la honte,
vous l'avez incarné à l'écran.
Jean-Paul
c'est le père de l'existentialisme. Et vous vous sentez très proche en fait de Sartre. Vous expliquiez en fait à l'époque où vous avez tourné ce film que vous aviez un parallèle intellectuel de vie avec Sartre.
Oh là là, je me sens pas du tout à la hauteur de Jean-Paul Sartre. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on est la manifestation de nos actes. Et c'est le matérialisme, l'existentialisme de Sartre. Je le rejoins là-dessus quand il affirme ça. Mais moi, qui suis plus dans une recherche de transcendance, je suis convaincu et contre l'idée de que l'existentialisme est total, qui fait que par exemple, pour moi, c'est quelque chose. Il y a une détermination. On est dans une époque déterminée avec un langage déterminé, dans un pays déterminé, à un moment déterminé. Donc on n'est pas aussi libre que le prétend Sartre. Moi, je m'éloigne plus de lui pour retourner vers des gens comme Spinoza, par exemple. Et c'est ce qui finalement fait que je ne suis pas un existentialiste. Mais là où je rejoins Sartre et où il a raison, c'est que je trouve que nous ne sommes pas autre chose que les différentes personne qu'on rencontre à travers une vie. Quand Sartre dit l'enfer, c'est les autres, parce que c'est les autres qui nous habillent, parce que c'est les autres qui nous fabriquent, dans nos rapports de force, dans la manière dont on échange.
Ouais, le regard des autres. Dans la pièce, l'enfer, cette chute-là est d'autant plus forte que c'est un huis clos avec ces trois personnages qui ont chacun leur caractère et qu'ils vivent l'enfer parce que ils subissent le regard des deux autres.
Parce qu'en plus, quand on est donc une vedette et qu'on est bankable, dans un style très précis, c'est-à-dire qu'on est catégorisé. Ouais.
Et en fonction du regard des autres, on vit qu'avec le regard des autres.
On en a besoin. Regardez, moi je fais un métier où on est beaucoup à vouloir exister, séduire, plaire.
C'est quoi comme métier?
Le fait d'être comédien, de raconter des histoires. Eh bien, les gens ont besoin de vous référencer. Et pour vous référencer dans cette jungle d'acteurs, eh bien, il faut aller vite. Et on va vite avec un mot. Et donc, au moins, on va m'étiqueter en disant, bah, tiens, c'est le petit intello, tiens, c'est le petit mec de banlieue. J'essaie de louvoyer.
C'est un cliché, ça, plutôt.
Ouais, mais justement, c'est pas des clichés, c'est des étiquettes pour vous référencer. C'est au départ, il faut dénommer.
Un cliché, une étiquette.
Non, c'est qu'à partir du moment où tu dois décrire ce que tu vois, il va bien falloir que tu le compares à quelque chose d'autre ou l'opposer à quelque chose d'autre.
Oui, pour le conceptualiser. C'est le principe de la science.
C'est le principe initial.
Le problème d'un comédien, c'est que tu ne peux pas
de la philo première année.
Le problème d'un comédien,
c'est pas m'inviter, je vais répondre quand même.
Le problème d'un comédien, c'est que son physique aussi qui parle, c'est-à-dire qu'il est évident que on va pas vous imaginer en Superman.
Pourquoi pas?
En muscle, en Hulk.
Moi, non, je me rappelle Spider-Man, c'est pour être possible. Regarde le film. Non, je sais pas.
Moi, je me rappelle de Roche Dizem à l'époque. Roche Dizem, je sais pas si tu vois cet acteur, était hyper gêné à l'époque. On tournait ensemble un film et il partait tourner.
Très bon réalisateur aussi.
Il est super, mais il partait tourner dans un film de Antoine de Caunes sur Monsieur N, un film sur Napoléon. Et il allait jouer le général Burgot, et qui était donc Bourgot, et qui était Gourgaud, pardon, qui était un
c'est
grand
pas votre
général
d'histoire,
non mais Gourgaud, à chaque fois je confonds, et donc Gourgaud, et évidemment Gourgaud n'avait pas le type méditerranéen de Rochdy. Et Rochdy, il me disait, oh, je vais mettre du blanc de céruse, je vais me blanchir. Et je lui dis, mais tu t'en fous, personne ne sait à quoi il ressemblait, Gourgaud, et puis on a que des images en noir et blanc, donc on s'en fout. Donc joue-le, tu seras un super Gourgaud, et il n'y a pas à se poser la question de savoir s'il était plus blanc, s'il était plus petit, s'il était plus costaud. Joue-le, incarne-le. Moi, je ressemblais pas du tout à Sartre. Je l'ai joué quand il était jeune, donc heureusement, il y a moins d'images de lui. On pouvait moins calquer le Sartre qu'on connaît médiatiquement parce qu'il y avait plus d'images. Ce qu'avait joué d'ailleurs Podalydès à l'époque. Mais il faut s'affranchir de ça. La ressemblance n'est que dans l'incarnation.
Et donc on échappe à des formes de déterminisme social, quoi. C'est ce que
il faut s'arracher au déterminisme, et c'est là encore pour donner raison à Sartre.
Et oui, on poursuit justement cette fois-ci, mais c'est Jamel Debbouze Sartre. Hein. C'est la suite.
On a le son, mais vous êtes sûr? Oui, on l'a reçu.
Oui, on est sûr.
Parce que on l'a reçu par courrier. C'est pour ça.
On essaye.
Mesdames, bonjour. Je me présente, Jamel Debbouze, avec les amis qui sont là. On vient finir une super production.
Ouais.
Un truc de malade mental, hein. Une production saint-denisoise, qui vient de Saint-Denis, en somme.
Le ciel, les oiseaux et ta mère traitent l'histoire de quatre petits lascars qui s'aiment beaucoup.
Tu me gonfles, putain.
Je t'emmerde, espèce d'hypocrite.
T'es vraiment une salope de putain de ta race.
Voilà. Le ciel, les oiseaux et ta mère, c'est un film où on a fait plein de trucs.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans oser ici?
On n'a pas arrêté de délirer, c'est bien simple, on n'a pas arrêté de délirer dans ce film.
Est-ce que vous consommez pas, faut dégager, là, hein.
Voilà. Juste pour évoquer ce film-là, un de vos premiers films, enfin, en tout cas moi je vous ai un peu découvert.
Moi c'est mon premier film.
Voilà, dans Le Ciel, les oiseaux et ta mère. Quel souvenir vous gardez de cette petite bande avec Jamel Debbouze? C'est un film de Jamel Bensalah, c'était une façon quoi d'entrer dans le milieu en équipe?
Ah ben moi, de toute façon, j'aurais pas fait ce métier sans Jamel Bensalah, qui est mon plus vieil ami dans ce métier. Et c'est lui qui m'a convaincu. Moi, je faisais des études, j'étais en licence de philosophie et aux langues orientales. Je me destinais vers une toute autre carrière que comédien, qui était purement alimentaire.
Ouais, vous avez fait de la pub déjà?
J'avais fait des pubs, mais c'était alimentaire, ça remplissait le frigo, c'est tout. Mais c'est lui qui m'a dit, mais fais-en ton métier, on va rester groupé, on va avancer dans des aventures communes.
On va rester groupé. Non, mais on dirait une attaque.
Je pense que dans
le commando.
c'est,
romaine.
C'est un métier, je pense, où on est quand même mieux quand on est en bande. Et Jamel m'a demandé de le suivre et je l'ai suivi. Et c'était la colo, c'était les vacances. J'ai le souvenir d'un Jamel Debbouze complètement fou, virtuose déjà, totalement imprévisible, un électron libre. On me souvient une fois, on tournait une scène sur la plage, il y avait des énormes vagues. Et Jamel était totalement attiré par l'eau. Et en pleine prise, il s'est barré. Il y avait un micro et il s'est barré. Il allait se baigner. Il savait pas nager, donc il a fallu aller le chercher. Et donc on est revenu, il a fallu attendre qu'il sèche. Après, on a perdu 2 heures de tournage. Mais c'était génial, c'était comme ça tous les jours. Non, moi, j'adorais ça.
La pièce de théâtre, pour l'instant, en tout cas avec Laurent Deutsch, Vincent Winterhalter, Jérôme Anger, Manuel Gaillard et Caroline Maillard, la comédie de Philippe Madral, s'appelle Bankable et ça sera à partir de la semaine prochaine, le 7 exactement, mardi 7, ça commence. C'est-à-dire que là, vous êtes déjà en répétition ou uniquement en train de faire des italiennes pour connaître le texte par cœur?
Là, on est en train de préciser.
Elle est assez nourrie en termes de texte,
ouais,
quand
long,
même.
En fait, et elle est très bavarde. Oui. C'était un film au départ. C'était un scénario qui aurait dû malheureusement tourner, mais il est mort avant Philippe de Broca. Et ce scénario était pour lui, c'était donc on l'a transformé, on l'a adapté au théâtre, mais ça rend donc la pièce assez techniquement difficile parce qu'il y a plein de plateaux, il y a plein de scènes, il y a plein d'environnements, il y a pas d'unité de décor.
Et puis il y a des moyens parce que comment vous faites
budget limité.
Non mais les décors,
il y a deux piscines, il y a des chutes de piscine, il y a des trucs. Vous verrez, ça sera la surprise.
Et ça sera
vous serez pas mouillé, rassurez-vous.
À partir de la semaine prochaine au théâtre Montparnasse, voici l'humeur de Nora Hamzaoui.
Écoutez, le sujet de la pièce m'a beaucoup parlé parce que si on sort de la problématique de l'acteur bankable et qu'on élargissait juste au fait d'être populaire ou pas, c'est quand même un vrai sujet d'actualité et surtout un sujet qui parle à tout le monde. Comment tu passes de la win totale, premier de la classe, premier des scores, premier des sondages à la méga lose, tout ça juste en plus à cause d'un tout petit détail, un mec qui te largue, une sale note en cours ou un emploi fictif à 500 000 euros. C'est vraiment très fragile la popularité. Je crois que le meilleur lieu d'ailleurs pour enseigner cette fragilité et le fait que tout peut basculer du jour au lendemain, c'est le collège. Moi, je me souviens, la star de mon collège, elle s'appelait Sarah Goldoni. Tout le monde voulait être elle parce qu'elle était hyper belle, qu'elle portait des hauts hyper moulants et qu'elle sortait avec le magnifique Thomas Lemoine. Et puis un jour, paf, elle a pété devant toute la classe pendant son enchaînement de gym au sol et hop, c'était fini. Mais fini la popularité, fini Thomas Lemoine. Bon, 3 ans à plus être Sarah Goldoni, mais la meuf qui a pété pendant son saut de biche, un enfer. Vous imaginez même pas à côté Juppé, c'est hyper soft. Donc, du coup, quand elle a perdu son statut de meuf la plus cool du collège, on a tout essayé de récupérer sa place. Alors, ça passait par plein de méthodes différentes. Draguer les mecs cool, parler très fort, s'épiler les sourcils, mettre des soutien-gorge rembourré. Non, on n'en avait pas conscience, mais à cette époque-là, on était un peu les anges de la télé-réalité avant l'heure, c'était bien.
Mais seulement entre vous, heureusement.
Ouais, c'est ça. Alors attention, moi, j'étais pas du tout dans ce genre de méthode. Je fuyais complètement les trucs de pouf. J'étais là, ouais, c'est pas en étant vulgaire qu'on gagne l'attention des gens. Puis bon, surtout, j'avais plus du tout de sourcils, donc à un moment, fallait que je passe à une autre stratégie. Du coup, j'avais.
Ah, il restait des trucs à épiler, non
Ça ne
change pas. Il a dit, c'est pas moi.
Il avait votre voix quand même.
J'ai juste bugué, j'ai fait comme si ça n'arrivait pas. Oui. Ce n'est pas arrivé. Alors, du coup, ouais, c'était un moment où j'ai effacé. J'avais tout misé sur une autre stratégie, mettre en avant mon côté créatif. J'avais décidé de me créer une espèce d'identité d'artiste un peu babos, beauf. Bon, en gros, je portais des robes sur mes jeans, quoi. J'étais vraiment dans un délire artiste maudit qui rejette sa société. Je m'en foutais de ma santé. J'étais une ouf, genre dans un délire un peu d'autodestruction. Genre, je fumais 50 bidis par jour en écoutant du Trio. Et quand j'y repense, je me dis que c'est quand même vachement de bol que c'est pas laissé plus de séquelles, le Trio.
Et après de nos campagnes.
J'en pouvais plus en faire.
Trio.
Oui, non, mais je sais, mais cette chanson.
Ah, la chanson, elle a marqué.
T'as fini ta chronique?
Non. Alors, merci Daniel. Et après, je m'étais vraiment retrouvée. Je pourrais le faire à chaque fois, en fait. Ah, mais si, en fait, on parlait de Trio. Et je m'étais vraiment retrouvée là-dedans. Je me souviens un jour, j'avais fait un truc trop cool. Ma mère m'avait offert un sac à dos Eastpak et j'avais dessiné un énorme Peace and Love au Tipex dessus.
Évidemment.
Ah, non, mais franchement, quand je suis arrivée dans la cour, tout le monde avait trouvé ça trop classe. Sauf que bon, en rentrant à la maison, ma mère m'avait défoncé parce que ça lui avait quand même coûté 120 francs. En plus, le Tipex avait transpercé le sac. Du coup, tous mes cahiers étaient ruinés. Il avait fallu tout racheter. Enfin, bref. Non, ma mère, elle pouvait pas me blairer, la pauvre, à cette époque-là. En même temps, je comprends, t'as une gamine qui a pas de sourcils, qui écoute du Trio, qui chie sur la société de consommation, mais qui claque des portes parce que tu veux pas lui acheter le dernier Bomber Scott, franchement, c'est incroyable. Enfin, heureusement, j'ai grandi, j'ai mûri, et avec l'expérience et la maturité, j'ai compris qu'il fallait pas chercher à tout prix à être populaire. D'ailleurs, encore ce week-end, j'étais chez une copine qui a un fils de 11 ans et qui a pas beaucoup d'amis à l'école. En gros, pour vous le décrire, c'est le genre de mec qui connaît les premiers de la classe, qui connaît les départements par cœur, et qui a la voix qui mue d'une façon un peu spectaculaire. Ça arrive pas à tous les mecs, mais je sais que ça arrivait à certains. Daniel. genre en gros, quand il te parle, tu respectes toute ta chronique. Tu sais pas s'il a des relents ou s'il a envie de chialer, mais en fait non, juste ému, donc tout le monde se fout de sa gueule. Et bref, ce week-end, il était un peu en bad parce qu'il disait ouais, à l'école, dès que je prends la balle, tout le monde se... Enfin moi, je comprends rien quand il parle. Et mais il en avait marre de pas. Tu sais le faire, toi?
Non, mais j'ai pas compris ce que t'as dit.
Ah voilà, ah bah voilà, c'était un peu ça.
Et tous en les gros, garçons, quoi, avant que ça descende.
Non, pas tous, il n'y a pas eu un truc comme ça hyper. Et bref, il en avait marre de passer pour un con. Donc moi, je lui dis, eh oh, dédramatise un peu, Hugo, je te jure que dans 10 ans, t'en riras de ta voix qui mue, alors vraiment, ça va. Et surtout, je lui ai dit un truc qui est hyper connu, c'est comme une loi, c'est comme ça. Les gens les plus populaires à l'école, au collège et tout, et au lycée, bah, tu te rends compte que ça fait toujours des adultes hyper cons, c'est comme ça, c'est comme un rééquilibrage de la vie, quoi. Et là, ce con me sort, ah bon, donc toi, t'étais hyper cool quand t'étais jeune. Ah, non, mais le petit con, quoi, l'espèce de petit bâtard. Donc j'étais là, un temps, ça, le mec, en une question, il me traite de vieille et de loser. Ça va, on se prend pour qui là? De toute façon, moi je vais vous dire, je suis pas du genre à me laisser impressionner par les réflexions d'un petit bolos de 11 ans. Là, je lui dis oh oh, hé, hey, oh, hein? Alors, tu vois, ça va maintenant.
Bien joué.
C'est bon.
Wow.
Oh, ça va.
Ah ouais, ouais.
Attends, je peux te dire qui c'est. Hein. Le soir, je rentre chez moi, je me dis ah là là, c'est cool quand même de plus être dans la course à la popularité, au bankable, de s'accepter un peu plus, de rire de qui on est, tout ça, et des moments moins bons et tout. Je me fais une tisane et là, je me fais mon petit moment détente du soir, mater le Instagram des gens que je peux pas blairer. Donc, ça, c'est mon petit loisir. Donc là, je tombe sur le selfie d'une pote de pote de pote, la meuf maquillée, mais comme une voiture volée, hashtag no filter, no make-up, non mais n'importe quoi, insupportable. Ah bah, c'est simple, son Instagram, il est encore plus mytho que les menus des restaurants chinois, sauf qu'au moins, au resto chinois, il y a écrit sous Laurence Juré, photo non contractuelle. Bon bah là, il n'y a rien écrit, je continue à défiler sur toutes les photos. La meuf parfaite, avec son petit chien, bien coiffé, en tenue de sport, hashtag 10 km, avec son nouveau vernis à ongles, là, et ses ongles, et ses petites copines qui commentent, à canon, à canon, à canon, trop canon. Et là, je me dis, mais c'est quand même pathétique, cette course à l'apparence et au like et au cool, enfin, c'est insupportable. Et pile au moment où je suis en train de me dire ça, je reçois une notification Facebook de Sarah Goldoni, donc l'ex-meuf du cours de gym, là, qui a pété pendant ses sous de biche. Et là j'en ai même pas entendu parler depuis 20 ans. Et la meuf, elle réapparaît pile quand je pense à elle. Et je vais voir et je me rends compte que cette conne m'a taguée sur une vieille photo du collège, sans sourcils, avec un t-shirt Che Guevara. Donc là, tu te dis déjà, en fait, Facebook, c'est juste la nouvelle cour de récré des adultes, en fait. Et aussi, tu te dis que tu lui as menti à Hugo parce qu'en fait, dans 20 ans, il en rira pas du tout.
Ça ressortira.
La bande originale. Ça ressortira. Nagui sur France Inter.
Bah, les photos ressortent plus rapidement que la voix qui mue. Mais c'est tellement
bah, écoute, tu rigoles, j'en ai parlé tout à l'heure à Daniel et il en riait pas du tout. Il m'a dit que c'était un moment très pénible de sa vie, comme quoi on peut pas
Daniel,
rire de tous les épisodes.
Ouais, un traumatisme. D'ailleurs, rien que d'y repenser, là, j'ai la voix un peu nouée.
C'est pour ça que tu t'es tué pendant toute cette rubrique.
Ça m'a replongé dans l'enfer.
C'était pas du tout par respect, parce que habituellement, non, je respecte personne. Oui, la bande originale de Laurent Deutsch. Laurent Deutsch est au théâtre Montparnasse pour cette pièce Bankable, d'une comédie de Philippe Madral, qui était donc initialement, ça on l'apprend, faite pour être le nouveau film de Philippe de Broca, mais qui là, donc en l'occurrence, c'est une pièce qui commencera à partir du mardi 7. Toile de fond, évidemment, le métier, le showbiz, un peu le rapport aussi de force entre les Américains et les Français. Mais en réalité aussi, on parle beaucoup d'amitié, on va revenir sur cet axe-là dans quelques instants. Mais d'abord, quelques années de votre vie, notamment en 1975, Laurent Deutsch.
C'est pas Richard Lornac, hein?
Non. Vous connaissez?
Richard Lornac?
Non, le compositeur de ça?
Non, pas du tout.
Le film?
C'est
Hachkoumoun.
Hachkoumoun,
ouais. François de Roubaix. Sublime compositeur. C'est lui qui avait fait Chapi-Chapeau.
Chapi-Chapeau.
Et qui a fait plein d'autres choses et qui est mort, malheureusement, noyé. Il s'est noyé en faisant de la plongée sous-marine.
Avec un bloc de béton au pied, enfin bon bref, on a...
Non, malheureusement, c'était un accident. Et oui, c'est un ces musiques-là, de toute façon, j'ai été très fan de Belmondo quand j'étais petit. Plein de films m'ont parlé, surtout Le corps de mon ennemi de Philippe Labro, où c'est l'histoire d'un mec qui revient un peu Golden Boy dans une vieille ville du Nord qui est complètement en désert, où tout est autour d'une seule industrie qui commence à battre de l'aile, où donc on essaie de sauver la population par le football.
Enfin, là, ce sont pas les musiques, là, vous parlez d'histoire qui vous a marqué.
Ouais, mais c'est parce que c'est une époque qui me parle, je sais pas pourquoi, c'est que...
Les musiques de Sergio Leone, par exemple, sur les westerns...
Ah ça, j'adore aussi.
Moment et personne et tout ça, oui.
J'adore aussi, mais là, ça me parle un peu plus, parce que c'est les années 70, 75, et ils étaient sapés comme je voyais mon père partir au travail le matin, donc j'avais l'impression de voir partir mon père, et il avait l'image de Belmondo, c'était pas désagréable.
Enfance que vous qualifiez vous-même d'heureuse auprès de votre papa et de votre maman, vous avez grandi à Sablé-sur-Sarthe, une ville dont on parle beaucoup en ce moment.
Et François Fillon.
Voilà.
Mais c'était Pénélope qui s'est beaucoup occupée de moi.
Et vous faisiez déjà le mariole quand vous étiez gamin à l'école?
Ouais. Bah oui, j'étais tout petit, donc il fallait surcompenser, sinon j'existais pas, on marchait sur les pieds, donc je devais dire tout le temps, hey, je suis là les gars, je suis là, et pour être là, et bah, il faut distraire et susciter l'intérêt.
Petit donc, comme Sartre.
J'étais. Il paraît qu'il était séduisant quand il était petit. Je suis pas sûr que je l'ai été aussi autant que lui. Ça peut paraître curieux parce que quand on le voit, il a quand même une tête abominable. Mais il était très beau, il paraît. Il avait une voix très envoûtante. Pas celle qu'on a entendue, qui est une voix métallique. Il était déjà gagné par le tabac qui commençait à l'abîmer. Il paraît qu'il a une voix, il avait une voix baryton un peu rassurante, enveloppante. Moi, j'avais une voix très aiguë et j'ai mué très tard.
Est-ce que lorsque vous aviez, je sais pas, 12-14 ans, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire?
Footballeur. Je voulais faire Bruno Bellone.
Et c'est le problème du physique justement qui vous a un peu miné?
C'est le problème du physique parce que quand je suis allé en centre de formation à Nantes, on m'a demandé de prendre des hormones de croissance. Donc en 88-89, pile pendant les années terribles de cette maladie qui a emporté pas mal de jeunes, on m'a demandé de les prendre et j'ai été consulter un spécialiste à Cochin, à Tout Paris, ça, qui m'a certainement sauvé la vie. Il s'appelait le professeur Luton. Il est mort depuis et c'était un grand spécialiste de ça qui m'a conseillé de ne pas le faire.
Vous étiez en sport-études à Nantes?
J'étais à Nantes, ouais. J'étais à la Collinière et non pas en centre de formation à la Jaunelière, pour bien préciser les choses.
Mais là, c'est vos parents qui se sont dit, alors non, il faut pas prendre ces hormones de croissance parce que c'est.
Non, moi non plus, j'ai décidé d'arrêter. Ouais. Mon père m'a dit, parce qu'en plus, on m'a dit si tu prends les hormones
de
croissance.
J'ai décidé d'arrêter. Ça, vous en avez pris?
Non, j'en ai pas pris des hormones de croissance parce qu'on m'a dit si tu prends les hormones de croissance,
j'ai décidé d'arrêter le foot.
Ouais.
Pardon.
J'aurais été encore plus petit. Ça aurait été compliqué. Parce qu'on déclenchait la puberté immédiatement, donc tous les centimètres qui restaient à prendre avant que les os se développent définitivement, eh bien, n'auraient pas été pris. Quoi. On aurait en quelque sorte contrarié et accéléré mon grandissement.
En 93, vous écoutiez. C'est clair, t'as le toucher de ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, c'est clair. J'ai le toucher de ta mère sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher ni ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher ni ta mère.
Bah, NTM, ouais.
Vous avez déjà essayé de rapper à la vitesse, parce que la vitesse à laquelle vous parlez, je me dis que vous devez avoir un flow.
T'as le toucher ni ta mère.
À la Eminem, tellement ça va vite.
Là celui-là il est très très rapide, mais sinon ils avaient un flow un peu plus lent. Il y a qu'à écouter Joey Star, il est quand même il est plus lent que Cool Chain.
Oui, merci. Oui.
Pardon, c'est vrai, j'ai oublié un spécialiste.
Non, mais pas du tout. Bon, enfin, merci de me préciser que celui-là est particulièrement plus rapide. Vous jouez un petit français jouant les détectives avec une copine québécoise dans une série qui s'appelle Les Intrépides.
Ouais.
Ça, c'est votre première apparition?
C'est ma première apparition à la télévision. C'est mon premier job en tant qu'acteur. J'ai donc 15 ans et on me propose. Je viens d'habiter à Paris, enfin à Bobigny plus exactement.
Le goût du théâtre est venu dans une MJC?
Il est venu dans une MJC, oui. J'accompagnais une fille et j'étais très heureux de faire du théâtre parce que j'ai pu constater qu'il y avait plus de filles dans un vestiaire, enfin dans une salle de théâtre que dans un vestiaire de foot. Et donc j'étais ravi, je me sentais très très bien. Et puis ça a commencé à me plaire. J'étais payé pour rester naturel face à la caméra, faire l'idiot, faire le petit marrant. Donc,
vous pensez qu'il y a beaucoup de comédiens qui deviennent comédiens pour justement draguer, plaire aux filles et avoir une facilité de.
Moi, c'était clairement le cas. Il y avait une fille que j'ai suivie. Je suis resté amoureux d'elle pendant 7 ans, comme un abruti, sans lui dire. Je lui ai jamais dit. Mais du coup, j'ai fait du théâtre à travers elle. Voilà. J'ai été dans mon imaginaire en m'inventant des histoires avec elle. Donc, c'est devenu mes personnages que j'ai pu jouer avec elle.
Elle a été un moteur, finalement.
Elle a été un énorme moteur.
Ouais. Et peut-être que l'histoire d'amour elle-même, si elle avait été consommée, n'aurait pas duré aussi longtemps.
Non, j'en sais rien. Elle me plaisait bien.
on embrasse Catherine Deneuve.
Je rappelle qu'il faut être deux pour une histoire d'amour.
Et ouais,
bon, c'est ce que j'ai.
J'ai cru comprendre que de toute façon c'était malheureusement unilatéral.
En 2000, ouais, ça fait saumon quand vous dites unilatéral.
Mais c'était un sens unique. C'était un sens unique.
Ouais, c'est précis.
Oui, c'est vrai. En 2003, vous écoutiez. Dans la banque sans faire toc, toc, toc. 113.
Ah, j'adorais ça.
On braque, charge les sacs et on décolle. La main sur la détente, on passe là, on fait notre entrée dans la banque sans faire toc, toc, toc. 113 un pichard, ça fait gueule, c'est un dolde. On braque, charge les sacs et on décolle.
La main sur la détente. La musique, vous l'écoutez à quel moment dans votre
travail? Dans les transports. Dans les transports.
Mais dans votre boulot, en fonction du. Là, vous jouiez 3-0.
Ouais.
Dans ces années-là, vous aviez un casque comme les joueurs de foot et vous écoutiez de la musique aussi? Non, mais pour être totalement dans le personnage.
Ouais, j'essayais de les singer et de les mimer, mais non, mais moi la musique m'accompagne vraiment surtout dans mes déplacements, comme beaucoup de garçons. C'est un peu cliché de dire ça, mais je peux pas faire deux choses à la fois, donc quand je me mets à entendre de la musique, je me mets à l'écouter et je fais plus rien d'autre. Donc j'écoute la musique dans le train, dans la voiture, pour passer le temps.
3-0, on parlait de ce film, vous avez reçu en 2014.
113, c'était quand même un super groupe à cette époque-là.
Hein. Ouais.
Hold up là, je suis postiché, j'ai les mêmes cheveux que Dalida, la barbe de Fidel Castro et un gros Beretta. Vous rappelez ça, non, c'était génial. C'était génial. Ça.
Ah, mais t'as dit par cœur.
Ah, j'adorais le 113. Ouais. Bah, c'était Tonton du Bled, là. Ouais. C'était la plus connue. Ouais.
C'est un spécial, n'oubliez pas les paroles rap.
J'ai l'impression. Avec Laurent Deutsch, ouais.
Et Mokobé.
En 2009, vous écoutiez.
Et Mokobé.
On reconnaît pas Joy Star tout de suite.
C'est Vincent Dumas.
T'as vu ce qu'il est capable de faire Mokobé quand il met un slip l'été?
C'est Vincent Dumas, éclaire le filâtre.
J'adore le poème harmonique Vincent Dumas, éclaire le filâtre. Ouais. C'est la musique baroque, j'ai découvert la musique baroque assez tardivement sur un tournage de Jean de La Fontaine, de Daniel Vigne. Et comme je voyageais au XVIIe siècle, je me suis mis à écouter de la musique du XVIIe, donc de la musique comme Couperin, Marin Marais, la musique baroque, les complaintes populaires. Et ça, donc ce groupe-là qui a redécouvert des partitions et qu'ils ont instrumentalisé avec les instruments de l'époque, les sonorités de l'époque, ont créé cet album qui à l'époque avait été Diapason d'or, je crois, et qui est Laurent, vraiment sublime et qui fait voyager.
Ouais. Laurent Deutsch, à quel moment dans son MP3 passe-t-on de ça
rentrer dans la banque sans faire toc, toc, toc,
sans très intouchable,
ah ça,
c'est un autre
juste à quel moment?
Juste après, je sais pas, je trouve que ça se marie bien, tant mieux. Moi j'écoute trois chansons de rap, la quatrième va m'énerver, elle va me saouler, je vais avoir besoin de passer à autre chose.
Ça dépend du propos ou... Non,
je trouve que ça fait du bien tout d'un coup de casser le rythme, de casser le flow pour...
Oui mais là il y a un grand écart quand même.
Non, tu changes d'humeur, voilà, tu passes à autre chose.
Ouais.
Oui, enfin on passe pas par...
Tu sais, moi je danse des rocks, mais il y a un moment j'ai envie de faire un slow, hein, je veux l'emballer la meuf.
Tu peux passer à un rock, tu peux passer à de la musique classique sans aucun texte. Là on est dans la chanson baroque, qui est déjà plus rare, c'est pas le premier truc que tu peux...
Mais là c'était, au départ c'était un voyage un petit peu...
Sur FIP, il y a rarement...
Ça c'est un tube hein, dans le baroque.
Diapason d'or,
La Blanche Biche, c'est une des plus grandes chansons populaires françaises, une des plus connues, une des plus mémorables. Et écoutez-la, elle est sublime.
Tu l'entends quand à la radio? Sur quelle radio?
C'est pour la radio que t'écoutes.
Mais je te dis, sur quelle radio? Et
Radio Classique, 3h27.
Mais je pense, ouais,
mais ça, bien sûr,
elle passe ouais. Sur Radio Classique.
Ben ouais.
Non mais ça, écoutez, là, le violon, écoutez le violon là.
Oui,
écoute la petite, le fifre. C'est sublime, non mais c'est sublime.
C'est bon, on dirait d'une loi.
J'ai l'impression qu'il y a les hobbits qui vont débarquer là.
Vous jouez le rôle principal de la pièce Le Roman d'un Trader, où votre personnage s'inspire de Jérôme Kerviel. Vous avez vu d'ailleurs le film qui a également parlé de l'affaire Kerviel.
Ah, qui est sorti de l'année dernière, je crois. Ouais. Non, je l'ai pas vu. Non, de l'avoir joué une fois, ça m'a suffi.
C'est-à-dire?
Parce que
vous aviez étudié le dossier, vous aviez
non, j'ai pas non plus cherché à le rencontrer parce qu'on était dans une fiction. C'est un personnage qui en plus se suicide à la fin, donc ça n'a rien à voir avec lui, rien à voir avec son histoire. On s'est vraiment servi simplement de cette idée de casino, voilà, comment certains traders un peu de tête brûlée s'affranchissent des règles, s'affranchissent des limites au nom peut-être de certains usages tolérés, ou en tout cas quand ils vont dans quelque chose de plus ou moins interlope, enfin voilà, un peu plus malléable.
Soit ils s'affranchissent, soit ils sont poussés par leur organisme,
à le faire, voilà,
ou leur banque
à le faire. Il y a toujours des francs-tireurs, vous savez, c'est comme dans toutes les guerres, il y a des combats qui sont gagnés par les plus frappadingues de tous.
En 2009, parallèlement à cette pièce de théâtre, vous publiez Métronome, un livre qui raconte donc l'histoire de Paris à travers les stations de métro. Énormissime carton.
Oui.
C'est une marque maintenant, Métronome.
Oui, qui ne m'appartient pas d'ailleurs, je me suis fait arnaquer par un producteur. Sans déconner, je ne peux plus l'utiliser. Attention, elle va vous poursuivre. J'ai pas le droit d'utiliser ma marque. J'ai signé un contrat d'adaptation audiovisuelle et tout d'un coup, j'avais pas vu que le gars qui est un filou a pris
c'est
le nom.
Violent.
Je comprends pas comment.
C'est-à-dire, vous pouvez plus faire de livre intitulé Métronome sans son
si
accord.
Si le livre, j'ai le droit parce qu'il est arrivé après, mais tout ce qui est audiovisuel, ça passe avec son accord, l'accord de ce monsieur.
Même parce si vous écrivez Métronome différemment.
Mais pas.
Oui, ça,
ouais, absolument. Ouais, bah, tu écris Chanel avec deux N et deux LE, tu te fais quand même avoir évidemment. Mais ça veut dire, vous êtes fait avoir par un producteur, ça veut dire que vous avez signé un papier pour qu'il devienne propriétaire de Métronome.
On est propriétaire associé.
Mais pourquoi vous lisez pas ce que vous signez?
Mais je l'ai lu, mais je savais pas que dès que j'allais vouloir réutiliser ça, par exemple, pour un documentaire à venir, sans passer par ce monsieur, il allait falloir que je passe par ce monsieur parce qu'il était propriétaire avec moi de la marque, parce que c'est toi qui parlais de marque.
Bah oui.
La marque Métronome ne m'appartient plus.
Je trouve que Métronome, c'est une marque. C'est-à-dire que si maintenant on entend Métronome, on pense à vous, on pense au livre, on pense à la manière de raconter. Vous pouvez, et vous l'avez décliné de différentes manières. Donc c'est en ça que vous avez créé quelque chose.
Ouais, ouais.
Vous avez créé quelque chose.
Ça veut dire que Lui n'a pas le droit d'utiliser non plus.
Non, il n'a pas le droit d'utiliser. Il a des droits un peu bizarres. Enfin, si, j'ai malheureusement payé pour apprendre. J'ai payé, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément hyper loyaux. Par exemple, il a vendu mon documentaire Métronome à Netflix sans mon accord. Je voulais pas le vendre à Netflix et il l'a vendu sans me donner, sans me demander mon autorisation. Il a sur le plan audiovisuel,
c'est dommage
je me suis vraiment fait mettre une grosse carotte.
Hein,
non,
c'est dommage.
Je vais pas convoquer les médias pour régler mon linge sale en public. Je sais pas mon genre et je.
C'est
je
quoi
pas
regarder sur Google. Ouais,
juste une question, quelle a été le point de départ, soit la rue, soit la place qui vous a donné
Place d'Italie.
Ce plaisir et cet amour de l'histoire raconté par les rues et les endroits.
Place d'Italie. Pour une erreur, en fait, j'habitais à Bobigny, donc la ligne 5, et je suis allé au terminus, je suis allé tout au bout en me disant, tiens, je vais aller au quartier latin, je vais me faire une petite pizza, ça va être exotique, il va y avoir des touristes, ça va être ensoleillé. L'Italie,
ah, vous
quoi.
Avez dit Place d'Italie,
je suis allé à Place d'Italie. Et je suis sorti là, je me suis retrouvé devant les tours de Le Corbusier, les trucs hyper horribles, froids, glacés, un gros courant d'air avec une place, avec des bagnoles qui passent de partout, la statue du pauvre général Leclerc au milieu, c'est Leclerc ou De Gaulle, je sais plus.
Juin.
C'est Juin au milieu, ouais. Voilà, donc un truc complètement. Rien à voir avec l'Italie, quoi. Et là, je commençais à être déçu. Je dis, mais ils m'ont menti, le métro, quoi. C'est des menteurs, ils racontent que des conneries dans le métro. Pourquoi c'est Place d'Italie? Et là, je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur un livre, Place d'Italie, origine du nom, parce que originellement, c'est l'embryon, c'est la souche de la voie d'Italie, de la nationale 7, qui conduit,
qui part vers le sud
les Romains,
et qui part vers l'Italie.
Voilà, c'est la route de Fontainebleau qui rejoint ensuite voilà, Lyon, Sens, Lyon et l'Italie.
Ce côté vulgarisateur de
donc, je me suis dit, les stations de métro ont des énigmes à relever. Et comme j'étais un intrépide, eh bien les intrépides, il n'y a aucune enquête qui leur résiste. Donc voilà, je suis parti à la recherche du nom des stations de métro.
Donc
leur signification.
Vous aimez vulgariser, raconter des histoires.
Oui.
Pourquoi ne pas l'avoir décliné, je sais pas, en petites pastilles, en le racontant
parce que j'aurais eu des problèmes avec mon producteur.
Okay.
Non, mais parce qu'après, je voulais pas que ça devienne genre, ah là là, le filon, il exploite tout jusqu'au bout, le mec. Déjà, je me souviens, j'avais été un peu attristé, j'avais fait une émission.
Alain Decaux raconte, ça choque personne.
Non, mais.
C'était un rendez-vous qu'il avait inventé.
Mais je fais pas que ça, et puis j'étais très heureux avec Métronome, et finalement, je l'exploite quand même, puisque là, je viens de sortir un Métronome 2 il y a quelques mois, qui fonctionne très bien d'ailleurs, hein, je vous le conseille, c'est un livre qui rapporte plus qu'il ne coûte. Et tout va bien, mais à l'époque, je me suis dit, tiens, ce que j'avais sorti, la illustrée du métronome avec que les images pour ceux qui peuvent pas se déplacer, les gens qui ont pas le temps, qui ont pas les moyens, qui sont pas parisiens, etc.
Pas lire.
Qui trouvent ça fastidieux de lire, qui préfèrent quelque chose de plus digeste, boum, rien de plus précis que l'image. Surtout qu'aujourd'hui, avec un Paris qui se rembarre de plus en plus derrière ses portes cochères et ses digicodes, ça devient de moins en moins accessible. Comme moi, je suis médiatique, on me prend pas pour un voyou, on me laisse rentrer, et donc grâce à ça, je peux me faire un peu un passeur des vestiges qui sont aujourd'hui malheureusement cadenassés, ce qui d'ailleurs est le meilleur risque de les perdre. Donc je l'ai montré en photo, et c'était, je crois, Eric Nolot qui m'avait dit « Mais là, c'est un peu la combine, quoi. Tu sors le deuxième, il n'y a rien de plus, rien de moins. » Je fais « C'est pas vrai. Il y a toutes les images, toutes les photos, il y a tous les plans. C'est plus un guide qu'une histoire. C'est pour moi indispensable et complémentaire. » Et j'étais venu le voir à la fin et je lui dis « Bah, rends-moi le livre s'il t'a pas plu. » Il fait « Non, en fait, il est bien, il est intéressant. » Je fais « Mais pourquoi tu dis que c'est pas bien ?» Enfin, bref. Et là, je me suis dit « Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, on peut m'accuser. »
C'est Nolot, ouais.
Non, mais après, surtout, je me suis dit, on peut m'accuser d'exploiter un filon. Donc, le côté, la pastille,
Mais tant mieux, c'est une bonne idée.
Non, l'application. Non, parce qu'après,
l'avantage des idées quand elles sont bonnes.
On y voit plus que le côté mercantile, alors que moi c'était simplement de la curiosité. Donc je suis parti, comme je suis très curieux, je suis parti sur autre chose, aucun problème.
Est-ce que ça, pourquoi ne pas le faire aussi avec, je sais pas, Lyon, Marseille, enfin.
Je suis en train de préparer un look de nom.
Très bien, look de nom. C'est Lyon. Donc, et toujours chez Michel Lafon.
Et toujours en on. Michel Lafon.
Toujours chez Michel Lafon. Très bien. Revenons à cette.
On est environné par les Léon. Faut bien le dire. Hein, ouais.
Revenons à Bankable. Donc cette pièce que vous allez jouer à partir de la semaine prochaine. Vous êtes en pleine répétition, lecture, en train d'apprendre votre texte, j'imagine.
Et surtout en train de régler les interscènes, donc tous les changements de décor, puisque comme je l'ai dit, il y a beaucoup de plateaux. C'est un vrai.
C'est lourd.
C'est un Rubik's Cube.
Ouais. Ouais. Et donc nous avons demandé à Daniel Brun de venir nous parler, parce que Daniel, vous êtes. Et merci de venir à ce micro.
Merci, bonjour.
Que je vais
bonjour.
Régler, voilà. Daniel, vous êtes psychanalyste, professeur émérite de l'université Denis Diderot Paris 7, que je ne dise pas de bêtises. Vous avez publié chez Odile Jacob La passion dans l'amitié. Alors justement, votre livre puise dans les romans, dans les essais, dans les films, l'écoute même de certains patients, j'imagine, de l'importance de l'amitié. Si on peut travailler déjà entre amis, c'est l'une des premières questions.
Quand on parle d'amitié, vous avez du mal à trouver les mots,
Nagui. Je voulais en arriver à la pièce, mais autant poser directement la question sur ce que vous avez consulté, vous. Peut-on
travailler entre amis?
Ouais.
Déjà, l'amitié se noue autour du travail. Travailler entre amis, ça peut rendre l'amitié, comme vous disiez, un peu bancale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des rivalités, des jalousies.
Il y a des jalousies, justement.
Il y a des jalousies. Pièce, ouais. Et d'emblée, en plus, dans le titre de votre pièce, si c'est de cela qu'il faut qu'il
broder. Non, c'est pas de ça. Non, c'est à propos de la pièce. Apprenons aussi deux, trois choses sur l'amitié. Donc vous dites, travailler entre amis, c'est normal, c'est peut-être même la naissance d'une amitié, bien que la naissance d'une amitié peut être aussi l'école, peut être la famille, peut être le quartier.
Oui, peut être un magasin. Dans Jules et Jim, Jules est en train de manier des étoffes au marché Saint-Pierre et voit arriver Jim et se dit, il va me conseiller. Enfin, il y a du visuel dans la naissance de l'amitié. Marguerite Duras, il y a du visuel dans, il y a des scènes visuelles dans la rencontre entre amis. Colette rencontre son amie. Dans un hall d'appartement dans le boulevard Saint-Germain, et elle voit son amie avec un enfant porté sur la hanche, et ça lui... Peut-être que ça représente pour elle un rêve. Donc, il y a du rêve dans la formation d'une amitié, potentiellement déçu.
Il y a une frontière à déterminer entre être copain, être ami, être amant. Cette frontière-là, comment la déterminer? Comment définir l'amitié par rapport à tous ces rapports humains?
L'amitié à laquelle je me suis intéressée, c'est une amitié entre ce qu'on appelle les meilleurs amis, et pas l'amitié diffuse des copains d'enfance, et pas l'amitié qui devient une amitié amoureuse avec des relations sexuelles. Il y a de l'amour dans l'amitié telle que je l'ai écrite et je l'ai décrite, mais ça n'est pas une amitié qui devient amoureuse au sens d'un lien d'amour et d'un lien qui mène à une relation d'amant.
Donc la définition de l'amitié, c'est celui ou celle que l'on appelle à 2-3 heures du matin quand on a un problème.
Voilà.
Pourquoi on prend toujours cet exemple-là?
Je sais pas. Ouais. Tu réponds, toi, vraiment au téléphone la nuit? Moi, pas du tout. Il est en mode avion. Donc...
C'est celui. Ah,
très mauvaise amie, elle.
C'est celui qu'on peut
parce que joindre. Parce que tu vis qu'avec un portable, mais t'as pas un fixe?
Non. Non, mais apparemment, les gens n'ont plus de fixe.
Oui.
Ah bon, ok. Je ne suis pas les gens, alors. Et est-ce que, donc là, on voit dans la pièce que l'ambition, le pari professionnel peut être un inconvénient ou peut être un frein à l'amitié?
Le pari professionnel peut être un frein à l'amitié dans la mesure où ça crée des décisions contradictoires ou des décisions inopinées, comme ce que vous disiez, Laurent Deutsch, c'est-à-dire que tout à coup, votre personnage va devenir plus jeune qu'à l'origine. Et ça montre qu'il peut y avoir, quand on travaille entre amis, l'amorce d'une non-coïncidence entre ce qui faisait l'amitié. Votre personnage change et l'amitié va nécessairement changer puisque le personnage auquel vous pensez ne correspond plus à l'ami que vous avez choisi. Donc c'est d'emblée une amorce de rupture et de chagrin à venir.
D'accord. Deux amis qui bossent ensemble, si pour le travail, les choses ne se font pas d'un commun accord, on peut rester amis en disant, écoute, on va rester amis, on va pas le faire finalement, on va pas travailler, tu n'auras pas le rôle, mais on est amis, donc restons amis dans la pièce.
Ça, je suis pas sûre, parce que l'amitié est toujours médiatisée par un projet commun ou par un intérêt commun. Et dès lors que ce projet ou cet intérêt n'est plus partagé de la même manière...
Vous pardonnez rien, vous, en amitié. Non, un ami vous ment, c'est fini, c'est plus un ami.
Ça peut devenir impardonnable.
Ah oui, d'accord.
Ah oui. Ah,
c'est fragile, votre amitié, finalement.
Ça peut être fragile.
Mais non, mais parce que...
Mais c'est aussi très durable. Mais ça peut être fragile quand les valeurs...
Un vrai ami, il peut...
On peut pardonner, bien sûr.
Évidemment, c'est fait pour ça.
Pourquoi s'il te ment, si c'est un vrai ami?
Non, mais parce qu'il y en a qui mentent et qui ont ça dans le sang. Ils mentent à tout le monde.
C'est un pote MeToo, Ben, oui.
Non. J'ai pas dit MeToo.
Il l'a dans le sang.
J'ai pas dit MeToo. Non, mais il y en a qui... C'est plus fort qu'eux, mais un ami, c'est un ami. C'est fini, il n'y a pas de débat. Ça fait des
années. Un ami, c'est un ami. Il n'y a pas de débat, mais les valeurs qui font les assises et les bases de l'amitié doivent être préservées. Sinon, ou c'est la famille qui devient prévalente, comme on a pu le voir dans cette pièce, ce livre qui s'appelle « Inconnu à cette adresse ». À un moment, c'est la famille, la vie de la sœur, par exemple, qui est privilégiée sur les... sur cette amitié entre deux hommes où l'un finalement a d'autres valeurs. Et enfin, ce qui est important, je crois, vraiment, c'est que les valeurs sur lesquelles repose l'amitié soient préservées. Ouais. Ce qui n'empêche pas le mensonge, ce qui n'empêche pas des petites jalousies, ce qui n'empêche pas, c'est pas un contrat de loyauté, mais c'est un contrat de loyauté envers les valeurs sur lesquelles l'amitié s'est constituée.
Moi, j'ai l'impression que l'amitié, en tout cas de son point de vue, c'est de dire c'est mon ami, donc je lui dois la vérité, je lui dirai tout, je peux tout lui dire, je peux tout lui confier. Et à l'inverse, si lui commet des mensonges ou des petits dérapages, je lui pardonne. C'est-à-dire que ce que je m'interdis, je l'autorise. C'est ça le principe de l'amitié, je pense.
Oui, mais dans l'histoire...
On est plus tolérant avec lui qu'on...
Dans l'histoire de la pièce...
C'est pour ça qu'on est amis. Bah ouais, on peut pardonner.
C'est ça.
Non ?
Si, c'est pour ça qu'on est amis. Mais par exemple, dans l'histoire de cette pièce, la notion de... l'ami de 20 ans choisi pour jouer la pièce, finalement ne correspond plus au rôle parce que le rôle, le scénariste le change pour...
L'évincer.
Pour l'évincer, sans doute, inconsciemment.
Ouais.
Pour l'évincer, inconsciemment.
Par
rationnellement,
jalousie du succès,
pour dire,
de la notoriété.
Ce sera un héros plus jeune. Un personnage plus jeune qui...
Et par intérêt, puisque évidemment, il y a un Américain...
C'est par intérêt, puisque c'est une demande.
Alors l'intérêt...
Un producteur américain.
C'est pas lui qui a arbitré là-dessus, c'est qu'on lui a demandé, et lui, il est faiseur, et scénariste, il a dû se plier,
ça
n'a pas fait prévaloir l'amitié pour dire, attendez, il n'a pas résisté bien longtemps.
Ça l'arrange un peu, parce que son pote abuse un tout petit peu.
Oui, il en a un peu marre, puisque comme tous les acteurs, il est très auto-centré, et il y a un moment où lui, il dit, mais moi aussi, j'existe, j'ai envie aussi un peu qu'on parle de moi de temps en temps. Je ne suis pas qu'un homme en creux.
Est-ce qu'il y a des chagrins d'amitié comme il y a des chagrins d'amour?
Il y a beaucoup de chagrins d'amitié, et très grands, et très graves.
Chez les filles, plus, j'ai l'impression.
Non, moi, j'ai le sentiment que les sentiments d'amitié, c'est pas forcément. C'est ce qu'on parle pas des sentiments amoureux, mais on peut parfois ressentir qu'on n'aime plus un ami comme on a pu l'aimer juste. Parce que
il y a des chagrins d'amitié dans les séparations.
La différence qu'il y a, c'est qu'on peut se remettre ensemble quand on est amis, c'est plus délicat quand on est amant ou l'amour. Quand il y a une fissure, elle est définitive en amour.
Mais il n'a pas l'air d'accord.
Est-ce que je peux juste dire quelque chose à propos du titre de la pièce ?
Bankable.
Oui. Dès qu'il y a de l'argent en jeu dans une amitié,
ça met en danger
l'amitié. Ça rend l'amitié bancale.
C'est vrai. Oh, un petit rire nerveux, vous en avez souffert ?
Ça fait combien de temps que vous connaissez Nagui ?
Parce que ça joue à mort.
Je suis très content que vous ayez utilisé ma formule.
La passion dans l'amitié, c'est signé Daniel Branche et Odile Jacob. Saluons également un nouvel ouvrage que vous venez de publier qui s'appelle Tous connectés, le numérique et le soin. Là, l'idée, c'est finalement avec les applications, avec Internet, l'automédication peut-être et certaines personnes
qui décident.
Une nouvelle santé,
une nouvelle façon de gérer son corps.
Et cette fois-ci, c'est dans un hors-série aux études freudiennes, c'est ça ? Si je ne me trompe pas d'éditeur. Merci beaucoup Daniel Brun d'être venu
nous parler
de l'amitié et de votre connaissance de cette amitié.
Mais l'amitié, c'est aussi souvent un recours. Enfin, j'ai un souvenir. J'ai un ami, un de mes meilleurs amis, qui m'a permis aussi...
Tu veux
aussi...
pas avoir ce souvenir après-midi ?
D'accord, oui. Tu veux que je l'ai tout à l'heure ?
Non.
T'es pressé. Tu vois, il est quoi ? Ah,
après-midi. Ben ouais, c'est pour ça.
D'accord, je peux attendre après-midi. Je reste encore un peu.
Non, dis-nous.
Non, c'est simplement que c'est quelqu'un qui a toujours été, pour moi, invulnérable, un costaud, à l'aise, habile, facile, très séduisant. Il y a une apparence, pareil. Je l'ai vu d'abord, avant de l'aimer comme ami. Je l'ai vu et il m'a plu comme un modèle, comme quelqu'un que j'ai envie de suivre, comme une valeur étalon. Et soudain, il est arrivé un jour, je l'avais pas vu depuis longtemps, et il avait des cheveux blancs dans les cheveux. Et j'ai vu ce mec invulnérable, incassable.
Et alors, t'as un problème avec les cheveux ?
Non, Nagui. C'est vrai que ça me fait un peu ça avec toi aussi. Je me dis, quelqu'un comme toi, aussi vivant, aussi dynamique, aussi solaire, tout d'un coup, c'est la peau de Jacques.
C'est la mort qui apparaît.
C'est la mort qui est là et qui nous chopera tous, quoi. Même le plus invulnérable, même le plus superbe d'entre nous, eh bien, la mort, elle rôde et petit à petit, elle nous gratte, elle nous rattrape. Et ça permet d'accepter ça
entre nous. C'est le choix entre la sincérité, l'honnêteté et la teinte. C'est un choix. Daniel, on voit que travailler donc avec ses amis, c'est tentant, mais ça peut vite devenir une fausse bonne idée. Surtout quand il y a de l'argent. Jean ?
Stop. Bordel de Dieu, ce qu'il est bon. Il est même très bon, voire très très bon. Quelle vista, monsieur Guy. Merci d'être vous. Et surtout, restez-le, même si ce matin, j'aurais préféré que vous soyez quelqu'un d'autre. Car Non, ce n'est pas une fausse bonne idée de travailler avec ses amis. Il n'y a rien de mieux que de travailler avec ses amis. Comme dirait Strauss-Kahn, c'est... Oh. Vous le savez, monsieur Guy, cette bande originale que vous avez montée de vos petites mains espiègles et boudinées...
C'est méchant.
Cette bande n'est-elle pas par-dessus tout une vraie bande d'amis, une incarnation vivante de la camaraderie? Mais bien sûr que si, c'est ça notre force. Depuis que vous avez décidé que nous devions tous habiter ensemble, monsieur Guy, c'est la joie, la félicité, le bonheur dans la promiscuité. On se connaît par cœur, surtout maintenant que vous nous obligez à faire l'amour entre nous. Ça serre les liens encore plus. Et on sent ça autour de la table. Hein. On parle librement, sans contrainte, on s'exprime. Enfin, on essaye, quand on n'est pas un abruti de la bande qui nous coupe la parole. On se régale des choix musicaux de Nagui quand il ne nous oblige pas à écouter ses invités de troisième catégorie qu'il n'a pas réussi à caser dans Taratata. On est tous main dans la main, l'équipe de la bande originale, enfin, à tous ceux qui ont la parole. On n'est pas non plus copain avec le personnel administratif et technique, faut pas déconner non plus. Comme le dit très justement Nagui, camaraderie, mixité sociale, jamais. Et encore. Sous ses airs de bobo snob zoophile, monsieur Guy parfois entretient des relations d'amitié avec des gens de milieux différents du sien. Et oui, je l'ai vu échanger de façon amicale et souriante avec des comédiens, des chanteurs, des banquiers, des fiscalistes et même des proxénètes. Comme quoi, monsieur Guy, une fois de plus, vous avez dit
N'importe quoi. Merci, Daniel Grand. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudedi.
Bonjour à tous.
Nora Mzaoui. Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Mora.
Bravo Daniel.
Et Charles Arnac. Notre invité Laurent Bankable est le nom de cette pièce. Bankable, Laurent, vous y incarnez. Vous, c'est le scénariste,
ouais,
Pierre, hein, c'est
une espèce de ersatz de Woody Allen.
Heureux avec Sabine, en couple. Enfin, oui, il a plutôt une vie très stable, en fait, ce garçon.
Ouais, mais il est persuadé qu'il va mourir tous les 30 mètres.
Il est hypochondriaque.
C'est compliqué, quoi. Les choses se gâtent. Les nuages s'amoncellent dans une journée, lui, c'est incroyable.
Ce qui est un effet comique, évidemment. L'hyperchondrie, ça marche toujours.
Ouais.
Autre effet comique, le public et vous. Être complice d'une information que vous retenez, que vous ne donnez pas à
Bruno. D'un sale coup qu'on n'arrive pas à porter.
Ouais. À Bruno, voilà, le comédien bankable, le fameux en question, joué par Vincent Winterhalter. Vous êtes avec Jérôme Anger, qui est lui le producteur, ouais, le coproducteur français avec Goldstein, le producteur américain. Mm-hmm. Bref, les Américains vous disent, nous, on met de l'argent, et attention, vous en avez déjà mis. Si vous ne changez pas le scénario pour rajeunir le rôle principal, on laisse tomber le projet, et donc l'argent que vous avez mis, vous le perdez. Donc,
exactement,
ce qui fait que de l'intérêt de l'amitié,
ils sont liés aux Américains et aux intérêts américains et ils doivent se soumettre. Et comment l'amitié va être traitée dans cet arbitrage terrible de devoir se débarrasser du vieux copain?
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Tom Villa tout à l'heure. Ça va évidemment faire rire le public, mais ce n'est pas si méchant que ça avec les gens du métier. Ça pourrait être beaucoup plus méchant. La réalité est beaucoup plus méchante, non?
En tout cas, on a voulu traiter ça sous l'angle de la caricature, de la dérision. On reste très en surface. Les choses ne sont pas aussi...
Mais vous dénoncez pas une affaire dans le monde du cinéma?
Non, pas du tout. On s'amuse du fait qu'aujourd'hui... Être bankable, c'est très bancal, quoi. C'est quelque chose où ça souffle, où c'est instable. On maîtrise plus forcément les tenants, les aboutissants. On maîtrise plus forcément notre image. Et c'est un véritable tour de force pour certains acteurs bankable d'arriver à dire et à convaincre un producteur en disant maintenant, moi, je vais faire ça. C'est pas ce à quoi vous vous attendez et ça va marcher aussi. Ça, c'est le plus dur à faire. Et souvent, c'est pas forcément réussi.
Il y a le côté bankable et de la fragilité de l'être, c'est-à-dire de se dire je rapporte de l'argent si je suis dans un projet, donc je vais demander encore plus d'argent puisque je leur rapporte de l'argent jusqu'au jour où on est mis de côté, parce que c'est ce que va vivre aussi un tout petit peu le Bruno, c'est le chaud et le froid. Alors d'une manière plus rapide pour lui dans la pièce, il va apprendre qu'il est exclu et qu'il va pouvoir peut-être réintégrer le projet. Comment il va gérer? Est-ce qu'il va se venger ou pas d'avoir appris ça?
En même temps, c'est une histoire de rédemption, c'est-à-dire que cet acteur-là qui est pris un peu comme un lièvre dans les phares d'une voiture, dans les phares donc de la lumière, de la célébrité et dans le fait d'être cet acteur incontournable, lui-même se pose des questions, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de mon état d'acteur? Est-ce que être acteur, c'est faire ce qu'on me demande de faire tout le temps pour répondre aux sirènes de la rentabilité, du commercial, du film qui marche, etc.? Est-ce que moi, j'ai pas d'autres choses à prouver? Est-ce que je dois pas me retrouver ailleurs, avoir d'autres rôles, d'autres carapaces pour me construire? hein. C'est, on reparle de Sartre, on est encore dans. Et j'existe autrement que par ce dans quoi on veut me voir absolument. J'ai peut-être d'autres choses à prouver.
Mais c'est valable pour tous les métiers, pas uniquement dans le monde du cinéma. Se rendre indispensable dans son métier, quel que soit le métier que l'on fasse, c'est aussi une possibilité.
Et puis s'épanouir et dedans, et s'épanouir dedans, ne pas être que simplement ce qu'on a envie qu'on soit, et être cantonné, là encore, à une image unique, sempiternelle, étiquette, et s'arracher, s'affranchir de l'étiquette pour essayer de montrer qu'on est plus multiple et varié et faire le tour du monde.
Il y a un petit côté grosse tête aussi, il prend le boulard, le Bruno en question.
C'est pas sur RTL ça?
Pas mal.
La petite vanne de midi 10.
Donc il a pris le boulard.
Mais bien sûr, mais attendez, regardez, on passe notre temps à être interrogé sur tout et n'importe quoi. Moi je suis un acteur au départ, on me demande de réfléchir sur des questions de société, on m'interroge dans des trucs, on me dit voilà machin, et on finit par se rendre, par croire qu'on est intelligent.
D'ailleurs c'est quoi votre position sur le conflit israélo-palestinien?
Non mais surtout pourquoi vous ne jouez pas le comédien bankable? Parce que vous l'êtes, vous, bankable.
Moi je ne suis plus bankable, je l'ai été pendant quelques années, mais je ne suis plus bankable, je suis ce qu'on appelle le casting intermédiaire. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qu'on aime bien, en qui on fait confiance, mais on ne mettrait peut-être pas 5 millions d'euros avant d'avoir lu le scénario. L'acteur bankable, on va mettre tout de suite l'argent.
Il paraît que vous êtes C+.
Ouais, c'est plus.
Ouais, c'est plus.
Ah, c'est ça.
C'est quoi c'est plus?
Non, c'est des catégories.
C'est une note. Ah bon, d'accord. Il dit n'importe quoi. Et il va continuer de le faire. Vas-y, Daniel. Bon, hein.
Quelle belle journée.
T'as trouvé l'enchaînement tout seul.
Quelle belle journée que celle d'hier, mes amis. Quelle très belle journée.
Tu parles de quoi? La victoire de Federer.
Oui, ce dimanche 29 janvier, c'était la journée mondiale des lépreux. On n'y pense plus beaucoup, aux lépreux. Il est rare d'en connaître, dans son entourage. On en croise peu dans la rue ou dans les transports publics. Mais est-ce une raison pour les oublier? Sûrement pas. Oui, les lépreux, c'est cool, mais ce dimanche, n'oublions pas non plus la formidable victoire de Roger Federer à l'Australian Open de tennis, 18e titre du Grand Chelem à 35 ans. Quel champion! Et quand on sait comment c'est mou un Suisse, cette nouvelle victoire est encore plus merveilleuse. Bravo, Roger! Un lépreux, c'est une personne qui n'a pas de chance. Peut-on vivre heureux avec la lèpre? La question est délicate. J'en connais des lépreux qui continuent d'avoir des passions. Je pense en particulier aux lépreux, fans de Nagui et de Taratata en particulier. Des lépreux qui, souvent, ont perdu leurs oreilles. Mais oui, vive la lèpre, n'empêche qu'on ne peut pas évoluer. Évacuer ce dimanche merveilleux sans parler de la victoire des Français au championnat du monde de handball. 6e titre mondial pour les Bleus, quel exploit. Des gars 6 fois plus titrés que les footballeurs français et qui gagnent 6 fois moins. En même temps, le ballon est plus petit. La lèpre, c'est comme si tu transformais en oignon. Tu pèles. Tu pèles, tu pèles. Seul avantage, si un jour tu es perdu en forêt pour retrouver en chemin, tu te retournes et tu suis les morceaux qui sont tombés. Mais ta gueule avec la lèpre, hein. N'oublions pas que Manuel Valls s'est définitivement fait écarter de la course à la présidence de la République. Et ça, c'est quand même une super nouvelle. Il va pouvoir rejoindre François Hollande pour aller au théâtre, ou bien Le Drian pour aller visiter le Mali. À cette époque, il fait pas trop chaud, c'est cool pour voyager. Vous me direz, on a quand même Benoît Hamon pour nous saouler. Eh ben non, même pas. Hamon, dans 3 jours, personne parlera plus de lui. Tout le monde sera trop occupé à nettoyer le tapis rouge. Tout le monde va dérouler le tapis rouge d'Emmanuel Macron. Décidément, ce dimanche est un jour béni. Quand tu as la lèpre, c'est un combat de chaque jour. Après avoir serré une main, tu dois vérifier que t'as pas laissé un doigt. Quand tu te mouches, tu dois faire gaffe que t'as pas laissé ton nez dans le mouchoir. Quand tu fais l'amour, tu dois vérifier que... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça n'était pas arrivé depuis 1953. Hier, bim bam, une Française Miss Univers. Une fille du Nord en plus, comme quoi tout peut arriver. Elle s'appelle Iris. C'est la Miss France 2016. Elle fait des études, mais maintenant qu'elle est Miss Univers, elle va pouvoir arrêter d'étudier et consacrer son temps de façon vraiment utile, à savoir choisir le bon milliardaire parmi tous ceux qui vont vouloir la choper. Sacré dimanche. Oui, ok, je sais, le sport, la politique, les Miss, ça compte plus que les lépreux. Mais enfin, lépreux, c'est pas cool. Alors, une fois par an, pensons à nos lépreux qui, même quand ils arrivent à joindre les deux bouts, peuvent à tout moment en perdre un. À demain.
Merci Daniel. Original. Nagui sur France Inter.
Signé Daniel Morin. Laurent Deutsch nous a dit, c'est un petit scoop, je pense qu'il y a un lougnounoum qui se prépare pour son métronome chez Michel Lafont. Côté cinéma, fiction, télé, qu'est-ce qui
J'ai joué dans une série pour M6 qui va sortir à la rentrée, qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?», qui est l'histoire de Kadra, parisien, qui décide de retourner vivre à la campagne des néo-ruraux. Mm-hmm. Et il veut retourner dans sa ville d'enfance.
Mais c'est avec François-Xavier de Maison.
Alors, ah, ça, non, ça s'en est une autre, ça.
Ah, pardon.
Non, 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 M6 s'est lancé dans plusieurs, dans une politique de fiction, ils en ont lancé pas mal.
Pardon.
Et
d'accord.
Celle-là,
oui,
s'appelle Cadra, ouais.
Il nous en a parlé en disant Cadra, ouais. M6.
Et moi, c'est une autre qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, qui est beaucoup mieux. et qui raconte, voilà, l'histoire de ce couple de Parisiens qui retourne à la campagne. Évidemment, la campagne a changé. Il l'avait quitté quand il avait 15-16 ans. Elle ne répond plus du tout à ses attentes. Elle est surprenante et pleine d'imprévus, donc plein de prétextes à rire. Surtout que sa femme, elle, attend le premier anicroche pour retourner à Paris. Elle est comédienne, sa vie est à Paris, son réseau est à Paris. Et donc, évidemment, elle va être là un peu comme un boulet pour lui, pour l'empêcher d'avancer. Ils vont être au bord de la rupture, au bord de craquer. En même temps, elle est enceinte, il a envie qu'elle grandisse à la campagne. Bref, c'est des préoccupations que tous les Parisiens ont, hein, à savoir, est-ce qu'on doit repartir, est-ce qu'on doit rester, que faire face à la pollution, face aux embouteillages, face à tout. Est-ce qu'il ne faut pas retrouver une vraie vie plus apaisée en province? C'est toutes ces réponses, les questions qui auront des réponses dans cette série qui sortira en septembre.
À propos de province, il paraît que vous allez vous présenter à la mairie de Sablé-sur-Sarthe.
Il me place à prendre. Non, il s'appelle Joulon le maire. Il s'appelle Joulon. Il y a un maire qui est plus.
Ah, c'est Fillon. C'est déjà
pris. Non, mais c'est vrai que j'ai bien aimé Sablé. C'était une chouette ville qui était hyper bien administrée par François Fillon. Il faut le reconnaître. J'ai été très heureux dans une ville où on manquait de rien. Il a fait arrêter le TGV à l'époque. Hein, c'était quand même sur la ligne parce qu'à l'habitude. Je ne sais pas si vous voyez où c'est Sablé. C'est pile entre la France et entre Paris et la Bretagne.
C'est pile entre la France et la Bretagne quand même.
C'est pile entre la capitale et la Bretagne. C'est à l'endroit où vous vous arrêtez pour pisser. Vous voyez ? L'arrêt de Parcé ou Pierre-Mille, c'est là où les gens s'arrêtent pour faire pipi, bah c'est Sablé, voilà. Donc il y avait pas grand-chose. Puis il y a eu le TGV.
Vendu comme ça, ça donne envie.
Non mais c'est devenu un département ultra attractif. Et Sablé est une ville où il fait vraiment bon vivre.
On dit ça quand on a réussi à partir.
Ouais. Mais on se rend compte que ça manque justement. C'est quand il n'est plus là qu'on s'aperçoit du bonheur.
Je sais, on dit ça de moi.
Et où bonheur, il est où? Voici. Ah bah si, c'est ça. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadroumouladi pour Laurent Dutch.
Laurent Dutch, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre bouillon de culture histoire d'apprendre à mieux vous connaître et on commence par un son pour vous.
You haven't heard? The French president François Hollande said in a book, quote, football players are uneducated kids that become millionaires too quickly. Therefore, they should muscle up their brain instead of muscle up their body. Well, Mr. President, while I muscle up my brain, I suggest you muscle up your popularity.
Vous l'avez reconnu, c'est Eric Cantona dans un de ses clips sur Eurosport. Et dans celui-ci, il fait allusion au propos de François Hollande qui avait déclaré que les sportifs devaient davantage muscler leur cerveau plutôt que leur corps. Eric Cantona, que vous avez vu débuter à vos côtés sur les planches dans Face au Paradis, c'était mis en scène par Rachida Brakni. Pour le fan de foot que vous êtes, Laurent Dutch, ça devait être un moment assez fou d'être à côté Eric Cantona, est-ce que vous avez réussi à parler foot, à être honnête avec lui sur son jeu, sur ses performances? Est-ce que une discussion, c'est
être honnête,
de dire vraiment ce qu'on pense, parce que quand on voit Cantona,
son jeu sur scène ou son jeu sur le
terrain? Son jeu sur scène, jeu sur scène et puis ses performances sportives, c'est
sa passion pour le karaté,
à côté d'une icône quand même.
Ah bah moi j'avais accepté la pièce pour ça. J'avais accepté
pour avoir un maillot.
Je me suis dit ça y est, je suis titulaire, j'ai joué avec Cantona. Mais non, c'est un athlète, c'est-à-dire que ce qui était incroyable avec Eric, c'est qu'il arrivait au théâtre, on jouait à 21h et il arrivait à 16h pour faire comme un programme de foot quoi. Il faisait la petite sieste, la petite collation. Il était en survêtement, toujours le même, qu'il n'avait pas souvent, un espèce de survêtement Nike rouge et gris. Et il se préparait comme un sportif. Et du coup, il me demandait de venir super tôt. Moi, je viens 5 minutes avant. Moi, j'ai pas envie de me concentrer. Bah, au contraire, je trouve qu'après, c'est trop long. J'ai besoin d'arriver. Ça me brûle les pattes, quoi. Donc, il faut que j'arrive, il faut que je joue tout de suite. Et avec lui, il me demandait le contraire, qu'on s'échauffe ensemble. Et comme il savait que j'étais un fan de foot, et comme il savait que j'avais eu des envies d'être footballeur, il me disait non, mais bon, bien plus tôt, on se fera des petites passes sur le plateau.
On
faisait des tennis ballon avec Cantona et c'est ce qui me faisait venir plutôt. Et c'est quelqu'un, il est adorable, il est charmant, c'est un cœur à vif, c'est quelqu'un qui a du mal à trouver les mots pour s'exprimer, pour exprimer toute sa sensibilité. C'est un hypersensible qui n'arrive pas à le formuler par moment et donc il explose très très vite. Mais c'est ce qui le fait, qui le rend très attachant, c'est qu'il n'est jamais innocent et il est toujours touché par ce que vous dites.
À propos de Rachida Brakni, elle sera notre invitée ici fin février, le 24 pour être précis, pour parler de son film de Sas en Sas.
On poursuit avec un autre son.
La lumière revient déjà et le film est terminé.
Oui.
Je réveille mon voisin.
Can't you music?
Il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin. J'ai une envie de bailler.
Ah, risky.
C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance. Et le vide sur l'écran est tombé.
La dernière séance d'Eddie Mitchell, qui a été en quelque sorte, Laurent Deutsch, votre professeur d'histoire, vous racontez qu'en regardant les films de cette émission, vous avez commencé justement à vous intéresser à l'histoire en général.
Ouais, c'était des histoires qui me passionnaient. Alors, elles étaient évidemment romancées à la sauce hollywoodienne, mais on y apprenait l'histoire des Vikings, de Robin des Bois, d'Ivan Noé, de Guillaume le Conquérant. On y apprenait les Dix Commandements. Voilà, c'est tous ces gros péplums, ces grandes épopées. Et le lendemain, je les faisais revivre à mes soldats, quoi. Et ma mère m'a dit, mais tu sais que si ça t'intéresse, prolonge, parce que c'est notre histoire. C'est l'histoire de la civilisation, voilà. C'est l'histoire de l'humanité. C'est aussi des petits morceaux, des petits segments de cette histoire. Donc si ça te passionne, va chercher plus loin dans des lectures pour continuer à alimenter ton imaginaire. Et c'est vrai que c'est parti de là. Et je sais qu'Eddie Mitchell avait été surpris, m'avait convoqué à une émission qu'il avait fait où il avait lu mon livre. Et comme je lui ai dédicacé dans mon livre, il m'a dit, mais pourquoi tu m'as mis dans ton livre? Et je lui ai dit, bah, pour moi, vous avez été un peu comme un professeur, en tout cas un déclencheur dans mon envie de me piquer du goût pour l'histoire. Et il m'a dit, mais moi, les films hollywoodiens, c'était pas du tout pour ça. Moi, c'était pour les pépés en gros décolletés et les grosses voitures, quoi. C'était vraiment les John Wayne, les carabines et certainement pas l'histoire qui allait autour. Comme quoi, finalement, l'histoire peut arriver par accident.
Et donc, la transmission comme ça par la culture populaire, c'est quelque chose d'important. C'est
d'essentiel,
ce que vous faites avec Métronome. Si vous deviez comme ça imaginer au débeauté un programme télé, quelque chose qui manquerait dans cette transmission du savoir par la télévision, qui est quand même la culture commune à tous. Qu'est-ce qui manquerait selon vous ?
Alors ça tombe bien, je vais faire ma promo. Je suis en train de au printemps, j'ai un documentaire tiré de mon deuxième livre Hexagone qui va sortir, et je trouve que on ne lit pas assez l'histoire à la géographie. L'histoire devient un terrain, j'en ai été la victime, suspect au refuge identitaire, nostalgique, le regard vers le passé. Mais moi, ma démarche, elle est tout inverse. C'est parce que je suis passionné par ma réalité, par mon présent, que je me pose des questions et que l'histoire va m'apporter des réponses. Je vais pas le chemin dans l'histoire pour oublier le présent. Je fais le chemin vers le passé pour mieux décrypter mon présent et la signification des choses qui m'entourent, de mon quotidien. Et si mon livre a marché, c'est parce que je pense que les gens sont passionnés par ce qui les entoure, sont curieux de ce qui les entoure, de comprendre pourquoi telle chose est là, tel vestige est en place, telle ville s'appelle comme ça, telle route est sinueuse à tel endroit. Et c'est ce que j'ai raconté dans mon deuxième livre qui va donc sortir sur France 5, qui va s'appeler, dans mon documentaire qui va s'appeler Hexagone. On va partir sur les routes et partir de la surface, s'intéresser non pas aux causes, mais avant tout aux conséquences. Voilà notre monde, voilà notre jardin merveilleux qui s'appelle la France. Eh bien, il a une histoire et c'est plein de surprises, plein de trésors, plein de merveilles. C'est peut-être l'émission historique qui me manque, c'est une émission qui lit davantage la géographie et l'histoire. Et d'ailleurs, c'est dommage, à l'école, les cours sont histoire et géographie. Mmh. Et c'est jamais connecté, c'est jamais lié, peut-être par manque de temps, mais c'est dommage. Oh ben connectons
souvent
les choses.
Les profs d'histoire géo disent préférer l'histoire à la géographie.
Je préfère la géographie. Moi, je préfère la géographie parce qu'elle m'interpelle.
Vous venez de dire que les deux sont intimement liés, comment c'est pas faire l'inverse ?
Je trouve qu'on sépare l'histoire de la géographie pour s'intéresser à des thèmes historiques, la féodalité, telle ou telle chose. Mais c'est loin, ça nous parle plus aujourd'hui. Si tout d'un coup, vous commencez à raconter pourquoi la Nationale 20, elle fait une courbe au niveau des tempes parce qu'au 11e siècle, il y avait un seigneur qui était le seigneur de Méréville, qui rançonnait tous les passants, tous les voyageurs, même les envoyés du roi quand ils voulaient aller à l'autre bout de son domaine, à Orléans, de Paris à Orléans, eh bien, la Nationale, vous verrez au niveau des tempes, elle est détournée, elle fait comme une courbe, donc elle est plus droite comme à l'époque des Romains, mais elle est courbe et convexe parce qu'on évitait un vieux seigneur qui était un fripon et un brigand. Tout d'un coup, la géographie devient expliquée, et cette route qui fait un détour, eh bien, on sait maintenant pourquoi. Il y a 1000 ans, il y avait un mauvais coucheur qui vous attaquait si vous passiez par son village. Il fallait l'éviter. C'est passionnant.
Pourquoi expliquer si pourquoi les champs sont
plutôt carrés,
avec les
péages.
Exactement.
Carrés, ou plutôt rectangles. Oui, pourquoi les parcelles ont pris telle ou telle forme, et à chaque fois il y a une explication historique.
Et cette explication, c'est des histoires d'hommes. Ouais. Il y a une incarnation. C'est aussi ce qui manque, je trouve, à l'éducation de l'histoire aujourd'hui, c'est l'incarnation. Quand l'histoire se fait chair, on s'en méfie aujourd'hui. Parce qu'on préfère des concepts, parce qu'on préfère une histoire plus globalisée, une histoire plus où on essaie de moins raconter sur telle ou telle personne, parce qu'on va le suspecter d'être un gros puissant qui s'est nourri sur la chair du petit peuple dont on parle pas. C'est vrai, mais je pense qu'il faut jamais oublier l'incarnation. L'histoire a besoin de se faire chair. C'est une histoire humaine. La France, c'est 70 millions d'habitants, c'est 3 milliards de de mort aussi.
Et ben pour finir, un petit cadeau pour vous qui va dans ce sens-là de la transmission par la culture populaire. C'est dans cette collection la BDTech des savoirs. On associe un spécialiste à un auteur, à un dessinateur de bande dessinée. Et là, je vous offre les situationnistes. C'est signé Christophe Bourseiller, qu'on connaît bien ici.
Ah, bien sûr.
Et Jacques Rénal au dessin. Les situationnistes, c'est de 57 à 72. Et le personnage central, c'est Guy Debord. Vous savez, celui qui dénonçait la société du spectacle. Qui ont pu retravailler pendant mai 68 les grands slogans sous les pavés la plage, jouissez sans entrave. Et on vous explique pourquoi ce mouvement est important. C'est un mouvement poético-politique qui s'inscrit dans les continuateurs de Dada et c'est une part importante de l'histoire. Pas encore, j'ai pas encore fini. Tout ça appartient à l'imaginaire collectif, mais il y a un vrai savoir à tirer de Guy Debord.
sama su aksigin beguma kuma hol dal dine yo linek si yo monesiman linesiman moi dilem yapal. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away. Just as long as I stay.
Sundur avec Seven Seconds, notre invité Laurent Dutch. Il est comédien, bien sûr, il est à l'affiche de cette pièce au théâtre Montparnasse qui s'appelle Bankable, aux côtés de Vincent Winterhalter, Jérôme Anger, Manuel Gaillard et Caroline Maillard, le tout signé par Philippe Madra. Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour Nagui, le grand spécialiste de la musique en France, qui s'est fait humilier par Laurent Dutch, qui lui a fait une petite leçon sur NTM. En même temps, un mec qui programme Vianney en duo avec Black M et Anne Romanoff, ça peut faire douter. Désolé pour les amis de Leïla Kadour Boudadi qui pensaient lui passer un coup de fil pour lui demander de l'aider à cacher un cadavre ou autre chose. J'ai l'impression qu'elle ne vous filera pas de coup de main. Non, elle est en mode avion. Et pas qu'au niveau téléphonique, le mode avion. Alors en Dutch. Désolé pour Leïla Kadour Boudadi, une fois de plus, la bankable de la bande, l'avion de France Inter qui a la pose dans le couloir, comme Sarah Goldonia a eu un petit trou d'air en faisant un saut de biche. Eh oui, les il en gardera le souvenir de tes 20 heures sur France 2. Ça, c'était bien.
Merci Laurent et merde pour la semaine prochaine. Ça commencera le mardi 7 au théâtre Montparnasse. Bankable. Laurent, revenez quand vous voulez, notamment nous parler de Look de Noom ou de votre série
Hexagone.
Documentaire.
Ah oui,
avec plaisir.
Bienvenue demain. C'est Alice Paul et Danny Boone qui seront nos invités pour Red Dingue. Et nous partons dans les carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Salut Nagui, salut tout le monde.
Bonjour Marina. Comment il va? Comment il va ce petit chat dans la gorge?
Non, il va super bien. Mais vous avez vu la nouvelle hier?
Quoi?
Miss Univers est française.
Mais oui, lilloise.
Non, vous pensiez aux autres nouvelles.
Ouais.
Non, rien.
J'avais une question à poser à Laurent.
Il y en a eu beaucoup de nouvelles, je vous en prie.
Oui, Laurent, bonjour. Je suis un peu l'Augustin Trapenard du 12h30. J'ai une petite question. Sur la ligne 13, Saint-Denis, Université, Châtillon-Montrouge, est-ce que les travaux à Plaisance vont durer longtemps?
Je peux pas vous dire. En tout cas, Raspail aussi, qui est en ce moment, là, pendant quelques semaines. Ben, c'est bien, il rénove. Il est temps parce que, quand même, les stations de métro vont de moins en moins vite parce que les rails ne suivent plus. Elles sont complètement
vétustes.
Dites-vous que c'est une bonne chose s'il a raté. Télé rénove.
Et merci, si vous n'êtes pas parisien, de continuer de nous écouter.
Salut les amis.
Ouais, ciao. Salut. Ouais.